1% d'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Leur taille dépasse l'entendement. En Bulgarie, dans la plaine du Danube, près de la frontière roumaine, on trouve des fermes de plusieurs milliers d'hectares, autant dire des empires agricoles, propriété de riches investisseurs. C'est le cas d'Agrobel, situé à Brest, à 200 km au nord de la capitale Sofia. L'exploitation tourne grâce aux nouvelles technologies, les besoins en main-d'œuvre sont donc très limités, et si ce n'est de par la taille, on est loin, très loin du modèle des sauvecos dont se rappellent les anciens, une époque où les campagnes étaient encore habitées. Reportage à Brest de Juliette Rangeval.
C'était à l'automne 72, Luben Tonchev s'en souvient très bien. Il venait de rentrer à la maison juste après son service militaire et son père lui a dit « À partir de demain, tu vas travailler ». C'était la cueillette des tomates à cette époque-là. Le kolkhoz avait besoin de bras.
C'était très différent. Rien que les conducteurs de tracteurs, on était une cinquantaine de personnes parce qu'on avait de vieux tracteurs à chenilles qui roulaient au fioul. Il fallait 4 personnes pour les faire fonctionner. C'était extrêmement compliqué. Il y avait beaucoup de brigades. Il y avait la brigade spécialisée pour la vigne, par exemple. Il y avait des brigades pour chaque culture et des divisions dans chaque brigade.
Le temps a laissé ses marques sur Luben Tonchev, quelques doigts en moins, des rides au coin des yeux. Il a connu l'époque des kolkhozes, les villages pleins de monde, les crèches remplies d'enfants, puis le chaos qui a suivi l'effondrement de l'Empire soviétique, les coopératives privées, la concentration du secteur agricole avant l'adhésion à l'Union européenne en 2007. Aujourd'hui, les villages se sont vidés et 80% des fermes bulgares sont entre les mains de quelques 200 personnes, physiques ou morales. Le vieil ouvrier agricole est aujourd'hui à la retraite. Il a connu tous ces bouleversements. Le travail aussi a changé, pour le meilleur parfois.
On n'a pas besoin d'autant d'ouvriers aujourd'hui pour travailler avec ces machines. Avant, on était 4 sur un tracteur. Aujourd'hui, une personne suffit. Avant, on était 2 par moissonneuse. Les machines sont plus performantes, plus grandes, et les rendements sont supérieurs aussi. On n'a plus besoin d'autant de personnel. Bien sûr, avec les machines, il faut savoir travailler avec les ordinateurs, avec les différents réglages, alors qu'avant, c'était à l'œil nu. On estimait à peu près ce qu'on allait mettre, et puis voilà. Tout se faisait à la main, au pif, quoi.
Aujourd'hui, tout est mesuré, analysé, planifié. Dans les hangars, les machines sont alignées, énormes. Quelques hommes savent faire pour les entretenir. Ici, on ne cultive plus que des céréales, c'est tout ce qui reste. La terre, plus de 5000 hectares, appartient à Agrobel. C'est une de ces méga-fermes de la plaine du Danube, une spécificité bulgare. Plus l'exploitation s'est développée, gagnant des hectares au fil des ans, moins elle a eu besoin d'employés. En revanche, il faut du personnel très bien formé. Le champ dans lequel nous accompagne Ivan Anastasov, l'agronome de la société, compte 220 hectares. C'est gigantesque. C'est un champ de maïs avec un système d'arrosage automatique.
Toutes ces technologies exigent une formation du personnel, une éducation. Parce que ce système d'arrosage, il n'y a presque que de l'électronique dedans. Tous les tracteurs, toutes les moissonneuses sont équipées d'ordinateurs et de positionnement par satellite. Donc il faut que les mécanos sachent travailler avec les ordinateurs.
Les formations existent, lycées agricoles, filières universitaires, mais les fermes peinent à trouver du personnel.
C'est extrêmement difficile de trouver du personnel. Les gens, les jeunes surtout, ne veulent pas travailler dans l'agriculture. Ça ne les intéresse pas. Il existe même une statistique sur le sujet. Seulement 8% des bacheliers travaillent dans l'agriculture. C'est très peu. Ça n'attire pas les gens. Ils préfèrent rester au chaud, au sec, à l'intérieur, alors qu'ici, on est en plein air.
À 200 km de là, dans un bureau de l'Institut de recherche économique de Sofia, le professeur Ognian Bouyoukliev s'inquiète de l'orientation prise par la Bulgarie en matière agricole. Des fermes immenses, faisant la fortune de quelques propriétaires qui ont su bénéficier des aides européennes.
Le problème, ce ne sont pas les nouvelles technologies en elles-mêmes, c'est la restructuration de l'agriculture qu'on a connue en Bulgarie. Le fait que la Bulgarie devienne un pays producteur d'un minerai, d'une matière première qui est le blé, et au lieu de transformer ce blé, la Bulgarie ne fait que l'exporter. C'est ça le problème. Ce genre d'exploitation requiert très peu de main-d'œuvre. Il y a aussi une espèce de décalage entre ceux qui travaillent les terres et les exploitants qui habitent les villes. Les machines viennent des villes, les propriétaires vivent en ville aussi, et les gens qui habitent près de ces terres n'ont plus rien à voir avec l'exploitation agricole. Il est là le vrai problème.
Le vrai problème, il est dans ces villages fantômes, désertés par les jeunes qui préfèrent s'installer en ville. Après la Seconde Guerre mondiale, 80% des Bulgares vivaient à la campagne. Aujourd'hui, 75% vivent en zone urbaine et des milliers de personnes ont choisi de partir à l'étranger. D'après Eurostat, depuis la chute du rideau de fer en 1989, 12% des Bulgares ont quitté leur pays pour émigrer vers un autre État de l'Union européenne. Et selon les Nations Unies, la Bulgarie est le pays qui se dépeuple le plus vite au monde.
Peut-on résister à la flambée immobilière? Peut-on encore se loger à des prix décents en Europe? C'est tout l'objet de votre chronique aujourd'hui, Eve Minot. Bonjour.
Bonjour Frédéric.
Et on commence par cette initiative inédite, Berlin, qui a décidé de geler pour 5 ans le prix des loyers.
La décision a été prise hier et entrera en vigueur à partir de 2020. Cela faisait déjà plusieurs mois que la grogne montait dans cette ville auto-baptisée Arm aber sexy, pauvre mais sexy. Vendredi dernier, une pétition signée plus de 77 000 fois demandait l'expropriation des grands groupes immobiliers et début avril, des milliers de manifestants avaient battu le pavé dénonçant la folie des loyers.
Oui, car l'embourgeoisement de la ville ces dernières années, Eve, n'a pas bénéficié à tout le monde.
Non, pas du tout, à tel point que les Berlinois, rarement propriétaires de leur logement, moins de 20% de propriétaires dans la ville, ont vu leur loyer doubler en moins de 10 ans, plus 30% la dernière année. La ville en plein développement après la réunification a attiré de nombreux investisseurs, y compris étrangers, et les Berlinois ont assisté un peu impuissants face à la flambée des prix. Ils y consacrent aujourd'hui le quart de leur salaire. Cette mesure va donc bénéficier à tous les locataires de logements anciens du parc privé, soit plus d'1,5 million de foyers.
Et la mesure va plus loin, puisque les locataires estimant payer un loyer trop élevé pourront également demander aux propriétaires de le baisser.
Oui, ils pourront pour cela s'appuyer sur un indice locatif qui n'avait jusqu'ici qu'une valeur informative. Autant dire que l'annonce de ces mesures prises par la mairie rose, rouge, verte, sociodémocrate, gauche, écolo, a fait grincer des dents du côté des associations de propriétaires. Même la chancelière, Angela Merkel, issue de la CDU à droite, s'est exprimée espérant que cela ne viendrait pas freiner les investissements immobilier dans la capitale.
Et puis l'indice locatif, c'est une idée explorée aussi à Paris en France qui va faire son grand retour cet été.
Oui, le plafonnement mis en place en 2015 dans la capitale avait été interdit par la justice quelques années plus tard. Voici donc une mesure qui revient. Après validation du Conseil d'État, le principe interdire les loyers supérieurs de 20% à la moyenne du quartier constaté avec une amende pour le propriétaire à la clé. Largement critiquée là aussi par les professionnels de l'immobilier, la mesure espère ralentir l'explosion. Il faut aujourd'hui payer en moyenne 1080 euros pour 31 mètres carrés dans la capitale française et donc freiner du même coup le déménagement des Parisiens qui sont, rappelons-le, 12 000 à quitter la capitale chaque année.
Et puis une autre capitale vient de dépasser Paris à la tête des capitales les plus chères d'Europe. Une surprise, il s'agit de Dublin.
Mais depuis la crise immobilière de 2008, les prix n'ont pas cessé de monter dans la capitale irlandaise parce que les constructions ont été ralenties, que le nombre d'habitants, lui, a augmenté et que les propriétaires en ont largement tiré parti, notamment en faisant jouer la concurrence entre les dossiers de cadres supérieurs venus travailler chez les géants du web américains tels Apple, Microsoft ou Oracle, sans oublier l'effet Airbnb. Selon une étude diffusée cet hiver, il y aurait d'ailleurs autant d'appartements disponibles en location de longue durée pour les habitants donc que pour les séjours de quelques jours. Une association s'est là aussi constituée qui veut « take back the city », littéralement reprendre la ville.
Et quelles sont les autres villes européennes confrontées à une hausse rapide des loyers ?
Sans surprise, ce sont les villes où le marché de l'immobilier est en plein boom, outre Paris, Dublin et donc surtout Berlin. La hausse se fait également sentir à Bruxelles, à Londres évidemment, et aussi Amsterdam, des villes qui sont encore loin des prix stratosphériques du mètre carré parisien et londonien, à la location plus de 26 euros par mètre carré, et qui poussent les partis politiques à se montrer inventifs, car aujourd'hui, nous apprend le Wall Street Journal, les prix augmentent 30 fois plus vite que les salaires, ce qui crée évidemment, beaucoup de mécontentement.
Merci beaucoup, Eve. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Une maison pour 1 euro, cela ressemble à une fausse publicité de conte de Noël, mais il s'agit bien d'un programme social lancé dans plusieurs villes européennes, dont Roubaix, dans le nord de la France. L'idée, donner des logements vacants et délabrés à des investisseurs privés qui s'engagent à les réhabiliter. Un projet expérimental qui a permis à des habitants d'accéder à la propriété pour un prix d'environ 20% moins cher que le prix du marché. Reportage à Roubaix, signé Lise Verbeck.
Que je me trompe pas de clé.
Cela fait maintenant quelques semaines qu'Émilie a les clés de sa nouvelle maison.
Faire attention à la tête, à la marche. Ouais. Alors on va visiter. Donc là on vient d'entrer, donc ce sera toujours la même entrée. Ensuite à droite on aura la cuisine.
Mais pour le moment, il faut pas mal d'imagination à cette jeune architecte et à son compagnon. La maison est à l'abandon depuis 23 ans.
Alors c'est dans un état pitoyable, on va dire. C'est une maison à 1 euro avec travaux, donc on ne peut pas s'attendre à avoir un palace et tout refait à neuf. Là, on ne voit pas dans cette partie-là, mais plus en avant, on voit que les planchers sont bien abîmés, qu'il y a eu des infiltrations d'eau à cause des chéneaux, etc. Donc voilà, il y a tout à refaire, mais c'est le challenge. Il ne faut pas trop s'approcher parce que comme les planchers étaient... étaient bien humides, évidemment, ils sont un peu fragilisés, on va dire.
Émilie et son compagnon, en achetant cette maison à 1 euro, se sont engagés à la réhabiliter entièrement, des travaux à leurs frais.
À l'initial, on devait partir sur 118 000 euros aide déduite. Donc normalement, on a 37 000 euros d'aide. Et là, on est parti sur un budget total de travaux de 180 000 euros, sachant que c'est vraiment nos choix personnels parce qu'on veut mettre des châssis alu alors que c'était des châssis bois qui étaient préconisés. On isole plus que ce qui était demandé. Donc c'est vraiment des choix personnels qui font que le budget a augmenté. C'est tout à fait possible de faire avec ce qui était préconisé par la Fabrique des quartiers et les architectes de la ville.
On a une case aussi, mais elle est plus petite, mais elle a le mérite d'exister.
Leur maison sera donc légèrement inférieure au prix du marché. Les travaux vont durer 1 an et à la fin, elle sera comme neuve et à haute performance énergétique. Le couple n'aurait pas pu acheter un tel bien sans le dispositif qui prévoit aussi un accompagnement dans toutes les démarches. La Fabrique des quartiers s'en charge et aide aussi les 12 autres familles participant à l'expérimentation.
Veuillez patienter, nous traitons votre appel.
La Fabrique des quartiers, bonjour.
Vous pouvez entrer.
Vincent Bougamont est le directeur de cet outil d'aménagement de la métropole lilloise. Ils ont dû sélectionner les dossiers parmi des dizaines de candidatures.
Alors les critères, on a eu un travail assez important en amont de préparation des candidatures. C'est de l'accession sociale à la propriété. Donc le premier des critères, c'est d'être dans les critères de ressources de l'accession à la propriété qui sont plafonnés en fonction de la taille du ménage. Donc ça, c'était la première condition. La deuxième condition, c'était de montrer qu'à un moment on disposait du budget pour pouvoir mener l'opération à son terme, puisque maison à 1 euro avec travaux, il y a quand même un reste à financer sur les travaux une fois qu'on a déduit les subventions. Selon la taille de la maison et son état, on va de 70 000 euros à 150 000 euros de travaux.
Les familles doivent également s'engager à habiter dans la maison au moins 6 ans. Ces maisons appartenaient à des bailleurs sociaux ou à la mairie, toutes dans un état de délabrement avancé.
Ouverture des portes.
Guillaume Delbar, le maire de Roubaix, s'est inspiré des maisons à une livre à Liverpool, une ville qui ressemble à Roubaix de par son histoire industrielle.
L'idée, elle est venue en découvrant ce que faisait Liverpool avec les maisons à une livre. Et puis l'idée aussi, elle est sur un constat assez simple, qui est de dire, on regarde toujours la crise du logement en fonction d'une capacité à produire plus et à produire plus de neuf. Et nous, on estime qu'il y a un vivier, il y a en France 3 millions de logements vacants, qu'il y a un vivier dans les logements vacants pour contribuer à lutter contre la crise du logement. Donc ça, c'est un point de vue assez nouveau et on s'est attaqué, nous, au segment hors marché des maisons anciennes très dégradées, puisque c'est ça qui justifie une intervention publique. Sur l'expérimentation, on est parti sur une douzaine de maisons dans des quartiers différents, avec des tailles différentes, allant de 50 à 150 mètres carrés.
Il y a 4000 logements vacants à Roubaix, donc potentiellement autant de biens qui pourraient un jour faire partie du dispositif des maisons à 1 euro avec travaux. Si l'expérimentation fonctionne, conclut le maire, cela pourrait même s'étendre à la métropole lilloise ou aux zones rurales, elles aussi concernées par les logements vacants.
Barber showing photographs of every head he's had the pleasure.
Liverpool, justement, qui a inspiré l'initiative des Hauts-de-France. Le programme Maison à une livre a été lancé en 2013. 6 ans plus tard, le bilan est très mitigé. Certes, réhabiliter des maisons à l'abandon a permis de faire baisser la pression immobilière, mais la question des ghettos n'est pas résolue pour autant. Les explications au Royaume-Uni de Marie Billon.
C'est dans le quartier de Lavertree, au sud de Liverpool, qu'on trouve ces fameuses maisons à une livre, des 3 ou 4 pièces qui, il y a peu, étaient délabrées, inhabitables. En tout, 102 logements en kit, ou presque. Les 2000 candidats devaient remplir des conditions très strictes pour arriver au niveau des entretiens, un peu comme un entretien d'embauche. Il faut être primo-accédant, s'engager à habiter la maison pendant au moins 5 ans et surtout avoir les moyens pour retaper des travaux qui peuvent coûter jusqu'à 60 000 euros, selon les estimations. Ce stock d'habitations provient de l'échec d'une politique du gouvernement New Labour, menée au début des années 2000. Les autorités locales avaient alors racheté de nombreuses maisons. L'idée était de casser du vieux pour construire du neuf, ce qui aiguerait le paysage et surtout stimulerait l'économie locale. Une fausse bonne idée donc, puisque le projet a été abandonné en cours de route et Liverpool s'est retrouvé avec toutes ses maisons sur les bras. Le budget des autorités locales ayant baissé, une solution trouvée a donc été de laisser faire de nouveaux propriétaires entreprenants. Aujourd'hui, 55 d'entre eux ont fini leurs travaux, 33 sont toujours en cours et 14 maisons n'ont toujours pas trouvé preneur, selon les chiffres de la mairie de Liverpool. Mais parmi les 4000 maisons vides de la ville, ce stock représente seulement 2% du total et l'expérience ne sera pas renouvelée car elle a ses limites. D'abord, ceux qui ont les moyens d'entreprendre de si grands travaux de rénovation ont-ils vraiment envie de vivre dans ces rues où la pauvreté s'affiche? Car toutes les maisons de Wavertree ne sont pas des maisons à une livre. L'habitation voisine peut rester délabrée très longtemps. Le niveau d'abandon et de pauvreté dans le quartier fait aussi que la délinquance est bien implantée. Bref, il faut avoir de l'argent, du courage et de la patience pour acquérir ces maisons à un sou.
Donner aux sans-abri un logement en premier lieu et avant toute chose, c'est l'idée simple mais révolutionnaire lancée dans les années 90 aux États-Unis. L'idée a fait son chemin en Europe jusqu'en République tchèque, dans la ville de Brno, la deuxième ville du pays. Le programme Housing First a vu le jour grâce aux fonds européens, mais cela ne suffit pas à pallier l'absence de politique de logement social dans le pays. À Prague, Alexis Rosenzweig.
C'est à Brno, deuxième ville de Tchéquie, qu'ont été relogées les premières personnes en 2014 grâce au programme Logement d'abord, un programme qui permet aux plus démunis de louer leur propre appartement et d'être accompagnés dans toutes les démarches nécessaires à la réinsertion. 5 ans après, une dizaine de villes tchèques ont l'ambition de copier ce modèle et de le financer grâce aux 6 millions d'euros de subventions européennes débloquées par le ministère tchèque des Affaires sociales. Le problème, c'est que même à Brno, le programme est aujourd'hui contesté malgré son succès. Un succès trop relatif pour certains conseillers municipaux qui dénoncent les loyers impayés et les autres dettes accumulées par les habitants relogés dans des appartements mis à leur disposition. Les travailleurs sociaux qui aident les familles sur le terrain mettent quant à eux en avant le fait que ce programme permette d'économiser de l'argent public, notamment dans le secteur de la santé, ou même parce que les enfants peuvent rester avec leur famille et non pas à être pris en charge par une institution. Les débats du conseil municipal de Brno mettent en tout cas de nouveau en évidence les problèmes majeurs auxquels sont confrontées les collectivités locales à cause de l'absence d'une législation sur le logement social en Tchéquie. Cela devient d'autant plus problématique que parallèlement se sont formées ce que l'administration appelle des zones d'exclusion sociale, en fait de véritables ghettos sur tous les territoires tchèques. Les exclus, des familles roms, mais pas seulement, se retrouvent dans des taudis qui profitent à des marchands de sommeil grâce aux aides de l'État. L'économie tchèque se porte pourtant très bien, avec très peu de chômage, mais les solutions politiques pour enrayer le cycle du surendettement et de l'exclusion tardent à venir, et l'augmentation constante du prix des loyers à Prague et dans les autres villes du pays risque d'aggraver un problème déjà sérieux en République tchèque.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé avec le soutien de la Direction de l'Agriculture et du Développement Rural de la Commission européenne. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur les réseaux sociaux. À demain.